maison qui rend un peu flou, ou même très très flou. Nos analyses dans ce domaine, on avait par exemple identifié stratégie, acte, pratique, conduite, comportement et fonction. Pour moi, mais c'est peut-être, je m'avance trop peut-être là, pour moi, les termes de stratégie et acte sont relativement bien cernés. Hein, on a des définitions, on a vu des études, on a eu des analyses de discours en termes de stratégie et acte et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne le reste, et surtout pratique, on a du mal à voir clair. La semaine dernière, on avait dit qu'on peut peut-être considérer qu'il y aurait trois niveaux. La premier niveau, ça serait le niveau de ressources. Hein. Quelles sont les ressources communicatives disponible presque à l'espèce, hein? Donc le deuxième niveau serait le niveau émique, hein? C'est-à-dire la façon dont un groupe ou une culture donnée codifie les ressources générales pour produire un système. Et en fonction de le produit, le résultat de la codification serait ce qu'on appelle les pratiques. Mais ceci dit, ça reste assez, c'est bricolé, hein. C'est pas une théorie rigoureuse, ça. Mais c'est peut-être ça ferait un point de départ. C'est pour ça que j'avais dit à ce moment-là la notion, l'article. Hein, que je viens de dire, my word is my bond, là, serait peut-être utile dans la mesure où ils ont, comme je disais tout à l'heure, ils commencent par les croyances sur les langues pour aller vers les retombées des croyances au niveau des pratiques. Et par exemple, la valeur du discours, le statut du discours dans un groupe donné. Est-ce que parler, c'est une bonne chose ou pas, par exemple? Et puis, le but principal du discours, c'est quoi exactement? Ça varie d'un groupe à un autre, ils ont et d'une génération à une autre. Tout comme on a vu, au moins certains analystes disent que c'est le cas pour les hommes et les femmes, on a des buts discursifs différents. Donc notre problème, je suppose, serait quand même, les pratiques de toute façon, elles viennent de quelque part, hein? même si on a du mal parfois à expliquer pourquoi tel ou tel groupe s'est doté de telle ou telle pratique, on peut constater que des choses du type, les Français se serrent la main, c'est au niveau ethnographique, ça se voit, mais expliquer ça sur un plan plus théorique, ça...
Trop progressé, j'ai repris la lecture du bouquin de Hanks, donc je suis allée dans la... j'ai trouvé l'index des matières, voilà, donc je suis en train de lire consciencieusement tous les endroits où il y a le mot communicative practice, mais pour l'instant je trouve rien qui ressemble à une définition. C'est ça qui est étonnant, c'est que...
Et quand même, le livre s'intitule communicative practice.
C'est tout le livre, c'est l'ensemble. Comme je lis des petits bouts, parce que c'est très compliqué à lire. C'est pas que c'est compliqué à lire, mais c'est que c'est des pages comme ça, c'est super dense.
Oui, moi aussi.
J'ai un moment, c'est pas si dur à lire, mais c'est dense, quoi. C'est dense et les choses sont... Il faut vraiment... tu peux pas faire une lecture comme ça.
Non.
Hein. Il faut faire attention à ce que tu lis, donc c'est dur.
Non, moi aussi, c'était mon impression. Je l'avais avec moi pour les vacances d'été. Non, c'était pas le livre de vacances. Hein. J'ai lu 3 pages d'ici, 3 pages là, et puis j'ai laissé tomber. Non, c'était...
Je n'ai pas progressé, du coup.
Et pour les autres termes, conduite, comportement, fonction.
Il y avait ce qu'avait dit sur le fait que comportement pouvait être associé à théorie psychologique, d'apprentissage, behaviorisme, voilà. Tout ça.
Je crois.
Donc c'est connoté, pas de la façon qu'on voudrait.
Au moins au niveau théorique, c'est connoté. Hein.
Ça, j'en ai parlé justement avec...
Oui.
Et elle bannit le comportement, elle l'utilise jamais. Elle dit, surtout en psycholinguistique,
oui.
Parce que justement là, ça porte toute la théorie behaviorisme.
Oui.
C'est drôle, je ne suis pas psycholinguiste, mais ça me paraît. Évidemment, effectivement, on sait bien cette opposition cognitivisme-behaviorisme, et behavior, ça veut dire comportement, et que donc on pense à Skinner et tout ça, mais d'un autre côté, je ne sais pas si.
Parce qu'en fait, elle dit.
Comportement, c'est forcément un comportement induit par.
Un comportement qui est reproduit tout le temps dans la même situation. Donc elle ça dit, je parle de comportement, le comportement de tel individu dans telle situation. Là d'accord, on précise que c'est telle personne qui a tel comportement dans telle situation. Mais c'est pour éviter de faire des généralisations. On retrouve toujours le même comportement dans telle situation, des choses comme ça.
Parce que
telle chose va induire tel comportement.
Oui, bon, de toute façon, s'il est dangereux comme terme, il faut mieux éviter de l'utiliser.
Bon, c'est certain, si c'est connoté à ce point-là, pour le behaviorisme...
Et par rapport à conduite, alors ?
Je n'ai pas posé la question.
Qu'est-ce que c'est conduite ?
Je n'utilise pas conduite, c'est pour ça que j'aurais pu lui demander en même temps. Mais conduite, alors...
En linguistique, on ne le rencontre pas souvent. Hein,
non.
Conduite,
hein. Non.
Faudrait... Peut-être des fois aussi juste aller rechercher dans le bon vieux dictionnaire... des mots courants, quoi. Enfin, oui, normal, non spécialisé. Mais non, conduite, j'utilise pas. Mais même pratique, il faut que j'aille regarder dans pratique, dans le dictionnaire, en fait, tout simplement, parce que...
Oui.
Des fois, le sens...
Oui, de départ.
Oui, je suis pour, hein, c'est... La philosophie du langage ordinaire, c'est pas... Non, mais parfois, il y a des dictionnaires dans des aperçus, comme ça.
J'ai rien de nouveau à dire sur ça. Je veux dire pas grand chose.
Non, ce que j'ai fait moi, mais nous l'avons déjà, je crois, regardé ensemble. J'ai pris un document dont je me sers en ethnolinguistique pour les étudiants, ou un questionnaire avec toute une liste de questions sur ce que j'appelle les pratiques. pour avoir une idée de l'éventail de phénomènes, pour ne pas des comportements, et des ressources. Là. Est-ce que... Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'avait... Ça m'avait rappelé les publications de Fernando Poyatos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Poyatos, c'est un Espagnol émigré au Canada qui est le spécialiste de la communication non-verbale. Mais ce qui est intéressant, pour ce faire, il a fait une taxonomie des ressources communicatives des plus détaillés imaginables, tout ce qui est là, verbal, non-verbal, il est spécialiste du domaine non-verbal, et sur le plan non-verbal, vraiment, chaque détail, le fait qu'on s'approche de l'heure de manger, les...
Donc on commence avec nous.
Non, non, un poiatos. P-O-Y-A-T-O-S. Poiatos. Voilà. Voilà. Venant de Poiatos. Et l'article là, oh, j'aurais pu, mais ça date maintenant. C'est à ce moment-là, j'ai travaillé avec lui. Hein. Il est venu ici pour une période de quelques semaines. Il avait travaillé avec nous sur la communication non-verbale. Depuis, c'est un domaine où on n'a pas fait grand-chose. Nous, on n'a pas. Mais lui, il continue. Hein, il continue. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il a voulu donc faire une taxonomie très générale. Là, forms of communication within a culture. OK.
Verbal, non-verbal, alors.
Oui, oui. Tout ça. Mais j'ai quelque part, mais est-ce que ça fait partie de the total communication complex of human interaction?
Bah, visiblement, il a une approche holistique. Hein. Quand il dit total body communication, oui. Ça veut dire que tout est communication. Donc, pas seulement les mots ou les phrases, mais
verbal, non-verbal. Il y a vocal, non-verbal, ok, calibré, etc. Et puis, pour le non-verbal, il y a non-verbal vocal et non-verbal corporel, etc. Et ainsi de suite. Mais chaque moment, et j'ai quelque part sa taxonomie, mais c'est il y a une trentaine d'années, et je sais qu'il a continué à travailler sur ça, mais je n'ai pas cherché. Je sais qu'à un moment, j'avais commandé un livre ou deux de ces publication pour 208 et j'ai honte, mais j'ai même pas cherché pour voir si on les a.
Ça a dû servir à des études.
Moi, espérons. Oui. Ceci dit, ça, je trouve que son approche générale, il a voulu donc essayer de prendre en compte toutes les ressources. Comme on dirait nous, toutes les ressources. Pour voir lesquelles sont utilisées ou pas dans tel ou tel contexte, hein, dans telle ou telle culture. Tout comme nous savons que tout être humain est capable de faire des clics, hein, etc., mais il n'y a que les Bushmen. C'est pas tout ça.
Bushmen ?
Oui.
Zoulou, enfin c'est pas Zoulou, non c'est pas Zoulou, mais c'est... Non, c'est
je sais pas, je suis pas africaniste, hein, j'ai non...
C'est Bush,
oui. Bush, ok, oui, oui, oui. Ok, bon, là, un exemple d'une ressource, hein, nous sommes tous capables de produire fait public, mais il y a très peu de codification de ça au niveau linguistique, et même, c'est intéressant, quoi. Parce que oh, là, ça rentre dans la partie segmentale, n'est-ce pas, hein, paraît-il, hein, Myriam Makeba et ses chansons et tout ça. Ça fait partie de la langue dans le sens même saussurien. Hein, mais par contre, en anglais, ça reste paralinguistique. C'est pour parler, c'est le mot juste, à un cheval. Hein, c'est... Donc, on codifie hein, des niveaux différents, la ressource, la possibilité. Ouais. Ça serait un exemple de ressource qui n'est pas employée dans toutes les langues, toutes les cultures, et puis là où elle est utilisée, peut être utilisée de façon différente. Verbal dans un cas et vocal non verbal dans une autre. Et Fernando Poiatos quand il fait des démonstrations.